all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie ? Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 82 « Connais-tu ton langage d'amour ?» Souvenez-vous, dans l'épisode 80 « Apprends à te connaître », je vous expliquais l'importance de se connaître pour éviter, entre autres, toute influence toxique dans sa vie et rester capitaine de son propre bateau sans se laisser balloter à droite et à gauche. Dans l'épisode, je soulignais également que connaître son identité participait naturellement à vivre une vie épanouie. Puis je terminais le podcast en vous partageant que se donner de l'amour à soi-même était à mon sens la première étape incontournable pour apprendre à se connaître. À la toute fin, je vous promettais de vous expliquer dans la deuxième partie de l'épisode comment partir à la découverte de soi en empruntant le chemin de l'amour et de quelle manière se connaître à travers l'amour, votre langage d'amour, pouvait littéralement contribuer à votre épanouissement personnel et optimiser vos relations pour une meilleure qualité de vie à tous les niveaux. Comme promis, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. En tant qu'être humain, nous avons tous un réservoir d'amour à combler régulièrement et c'est encore plus vrai lorsqu'on a terriblement manqué d'amour étant enfant, soit parce qu'on a eu des parents toxiques ou soit parce que le parent, malgré sa bonne volonté, n'a pas su communiquer de la bonne manière son amour à l'égard de son enfant, ce qui cause dans ce cas de la toxicité inconsciente et de nombreuses frustrations des deux côtés, enfant comme parent. Vous allez comprendre dans quelques instants d'où viennent ces frustrations. En fait, lorsque le réservoir d'amour est sec, parce que totalement vide ou parce qu'il commence progressivement à se vider, on ressent un manque qui se traduit par une véritable frustration qui ne sera comblée qu'une fois que votre réservoir sera plein, c'est-à-dire rempli de votre langage d'amour, celui qui vous fait le plus vibrer et auquel vous êtes le plus sensible. Pour éviter de se retrouver régulièrement à sec, il est donc important de connaître votre langage d'amour pour faire le plein de la bonne manière. En connaissant votre langage d'amour, cela participera non seulement à la connaissance de soi, mais cela contribuera également à commencer à vous prodiguer en premier de l'amour envers vous-même avant de l'exiger des autres. En effet, vous ne pouvez pas exiger d'une personne qu'elle vous donne de l'amour si vous-même vous ne vous en donnez pas. Ça n'a pas de sens. Commencez déjà par vous aimer en partant à la découverte de votre langage d'amour et en le pratiquant envers vous. Une fois que vous serez familière avec ce langage et que vous aurez appris à travers lui à vous aimer, vous pourrez commencer à le faire connaître à votre entourage de façon à ce qu'il vous le communique de la bonne manière et que vous vous sentiez pleinement aimé parce que cette fois-ci, votre conjoint, vos amis, vos collègues ou le parent sain auront su parler le langage d'amour qui vous correspond. Alors, concernant les parents toxiques volontairement malveillants, à moins d'avoir cette volonté de changer et de faire le nécessaire pour, il ne voudra et ne pourra jamais parler votre langage d'amour parce qu'il n'a déjà pas d'amour en lui et parce qu'il ne vous aime pas. Donc, aucun intérêt de tenter de le lui communiquer, ça serait une perte de temps, clairement. En revanche, pour le parent inconsciemment toxique qui aime mal son enfant, le fait de pratiquer le langage d'amour de l'un et de l'autre pourrait être ultra bénéfique et contribuer à l'assainissement des relations. Alors, trêve de suspense, comment peut-on définir le langage d'amour? Combien y a-t-il de langages d'amour? Comment peut-on les reconnaître? En quoi peuvent-ils contribuer à la connaissance de soi et à votre épanouissement personnel? Pour répondre à toutes ces questions et par souci d'être la plus précise possible, je vais me retrancher gentiment derrière Gary Chapman, conseiller conjugal, pasteur baptiste, conférencier américain, spécialiste du mariage et de la famille et célèbre auteur du livre mondialement connu dans le monde de la psychologie et du développement personnel, Les langages d'amour, les actes qui disent « je t'aime ». Petite précision, ce livre, en identifiant les différents langages d'amour, s'adresse plus généralement aux relations de couple, mais dès lors que vous avez découvert votre langage d'amour, vous pouvez facilement les transposer dans d'autres relations, comme la relation parent-enfant. D'ailleurs, au tout début du livre, dans le chapitre 2, « Se sentir aimé », Gary Chapman fait référence au besoin indispensable pour l'enfant d'avoir son réservoir émotionnel rempli d'amour. Je vais justement vous partager cet extrait où il en parle avant de vous partager l'unique chapitre consacré au langage d'amour de l'enfant et les relations parents-enfants qui se dessinent autour de son langage. À travers ce chapitre, vous prendrez vraiment conscience que connaître son langage d'amour participe réellement à sa construction identitaire et donc à la connaissance de soi. C'est parti. Alors, je commence déjà par vous lire un extrait du chapitre 1. Que devient l'amour après le mariage ? Après 20 ans d'expérience de conseil conjugal, je suis arrivée à la conclusion qu'il existe 5 moyens principaux pour exprimer l'amour, 5 langues sentimentales que parlent et comprennent les êtres humains. Sur le plan linguistique, une langue peut comporter plusieurs dialectes. Il en est de même pour les 5 langages sentimentaux de base. Lorsque des revues titrent 10 façons de faire comprendre à votre conjoint que vous l'aimez ou 20 moyens de garder votre mari à la maison ou encore les 365 expressions de l'amour conjugal, cela ne signifie pas qu'il existe 10, 20 ou 365 façons essentielles d'exprimer l'amour sentimental. Selon moi, il n'y en a que 5, mais il existe de nombreux dialectes. À l'intérieur d'une langue, le nombre de façons d'exprimer l'amour n'est limité que par notre manque d'imagination. Nous savons depuis longtemps que la structure émotionnelle de la personne se développe dans la prime enfance. Des enfants cultivent un sentiment de mésestime personnelle alors que d'autres ont au contraire une saine image d'eux-mêmes. Certains vivent avec un sentiment d'insécurité alors que d'autres ont de l'assurance. Nombre d'enfants grandissent en se sentant aimés, désirés et appréciés, et d'autres en ne goûtant rien de tout cela. Les enfants qui ressentent l'amour de leurs parents et de leurs semblables apprendront comme première langue sentimentale celle qui résulte de leur structure psychologique propre, mais aussi de la façon dont leurs parents et les personnes importantes de leur vie leur auront exprimé leur amour. Ils parleront et comprendront cette langue sentimentale. Plus tard, ils pourront en apprendre une deuxième, mais ils seront toujours plus à l'aise avec la première. Les enfants qui ne se sentent pas entourés de l'affection de leurs parents et de leurs proches apprendront eux aussi une première langue sentimentale, mais ils la connaîtront mal, comme des écoliers qui refusent d'appliquer les règles grammaticales ou qui ne font pas d'efforts pour enrichir leur vocabulaire. Ces bases insuffisantes ne les empêcheront pas de devenir de bons communicateurs. Mais pour y parvenir, ils devront travailler davantage que ceux qui ont déjà un acquis de base plus positif. De même, des enfants qui ont grandi dans un milieu où l'amour était sous-développé pourront néanmoins arriver à se sentir aimés et à communiquer leur amour, mais cela leur demandera plus d'efforts et plus de zèle que s'ils avaient évolué dans une ambiance saine et aimante. Fin de l'extrait. Chapitre 2, se sentir aimé. Je vais vous lire un extrait. Le but de ce livre n'est pas de dissiper toute la confusion qui entoure le mot « amour », mais d'attirer l'attention sur le genre d'amour qui est essentiel à notre santé émotionnelle. Les pédopsychiatres affirment que tout enfant a certains besoins affectifs fondamentaux qui doivent être satisfaits pour qu'il devienne une personne émotionnellement stable. Parmi ces besoins, aucun n'est aussi vital que l'amour et l'affection, c'est-à-dire la certitude de savoir qu'il appartient à quelqu'un et qu'il est désiré. Si l'enfant est entouré de suffisamment d'affection, il deviendra un adulte responsable. Sans cet amour, il sera handicapé sur le plan de l'affectivité et de la sociabilité. J'ai beaucoup apprécié la métaphore utilisée par le Dr Ross Campbell, un psychiatre spécialisé dans le traitement des enfants et des adolescents. Dans chaque enfant se trouve un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Quand l'enfant se sent aimé, il se développe normalement. Mais quand son réservoir d'amour est vide, il connaît par la suite des problèmes comportementaux. La plupart du temps, les écarts de conduite de l'enfant s'expliquent par son obsession à vouloir soutirer de l'affection d'un réservoir qui reste obstinément vide. En l'écoutant, je me remémorais les centaines de parents qui étaient venus me parler des méfaits de leur progéniture. Je ne m'étais jamais jusqu'alors représenté un réservoir vide à l'intérieur de ces enfants, mais j'en ai constaté les résultats. Leur inconduite révélait leur quête désordonnée d'un amour qu'ils ne pouvaient puiser dans leur réservoir. Ils cherchaient l'affection au mauvais endroit et en usant des plus mauvais moyens. Je me souviens de Julie, une adolescente de 13 ans, traitée pour une maladie sexuellement transmissible. Ses parents étaient effondrés. Ils étaient en colère contre elle, mais ils en voulaient également à l'école qu'ils accusaient de lui avoir parlé de sexualité. Pourquoi Julie avait-elle fait cela, me demandèrent-ils. Au cours de mes entretiens avec elle, Julie me raconta que ses parents avaient divorcé lorsqu'elle avait 6 ans. « Je pensais que mon père était parti parce qu'il ne m'aimait pas », me dit-elle. « Quand ma mère s'est remariée l'année de mes 10 ans, j'ai senti qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait, mais moi, je n'avais toujours personne pour m'aimer. J'avais pourtant tellement envie d'être cajolée. J'ai rencontré ce garçon à l'école. Il était plus âgé que moi, mais il me témoignait de l'affection. Je ne pouvais presque pas y croire. Il était gentil avec moi et j'ai vraiment senti qu'il m'aimait. Je ne cherchais pas à avoir de relations sexuelles. J'aspirais juste à être aimée. » Le réservoir d'amour de Julie était vide depuis de nombreuses années. Sa mère et son beau-père veillaient à ce que ses besoins matériels soient comblés, mais ils ne se rendaient pas compte des luttes émotionnelles qui faisaient rage en elle. Il l'aimait certainement et pensait sans doute qu'elle ressentait leur affection. Mais il était presque trop tard quand ils découvrirent qu'ils ne parlaient pas le même langage sentimental que la jeune fille. Fin de l'extrait du chapitre 2. Chapitre 13. Les enfants et les langages d'amour. Le concept des langages de l'amour s'applique-t-il aux enfants? C'est une question qui m'est souvent posée dans mes séminaires. Je réponds oui, sans hésiter. Vous ne pouvez pas savoir à quel langage d'amour l'enfant est sensible quand il est encore petit. Exprimez votre amour dans chacun des 5 langages et vous serez sûr de faire mouche. Mais si vous observez le comportement de votre enfant, vous découvrirez très tôt quel est le langage d'amour qu'il comprend le mieux. Michael a 6 ans. Quand son père rentre du travail, il saute sur ses genoux, se redresse et passe sa main dans les cheveux de l'adulte pour le décoiffer. Que dit implicitement Michael à son père ? J'aimerais que tu me touches. Il établit un contact physique avec son père pour être touché à son tour. La première langue dans laquelle Michael ressent l'amour est celle du toucher. Jérémy vit dans l'appartement voisin. Il a 5 ans et demi et joue souvent avec Michael. Mais quand son père revient à la maison le soir, celui-ci se trouve devant un autre scénario. « Viens vite, papa, je veux te montrer quelque chose, viens !»« Une minute, Jérémy, je jette d'abord un coup d'œil sur le journal. » Jérémy s'en va mais revient 15 secondes plus tard. « Papa, viens vite! Viens dans ma chambre, c'est une surprise, allez, viens !»« Une minute, fiston, laisse-moi finir cet article. » La mère appelle l'enfant qui sort à contre-cœur du salon. Elle lui explique que son père est fatigué et lui demande de le laisser tranquillement lire son journal quelques instants. « Mais maman !» rétorque Jérémy. « Je voudrais montrer à papa ce que j'ai fait !»« Je sais, mais laisse papa tranquille 5 minutes. » 6 secondes plus tard, Jérémy est de retour auprès de son père, mais au lieu de réitérer sa demande, il arrache le journal des mains en riant. « Que fais-tu, Jérémy ? Je veux que tu viennes dans ma chambre voir ce que j'ai fait pour toi. » En somme, que réclame Jérémy ? Un moment de qualité de la part de son père. Il veut son attention sans partage et ne cessera pas de l'importuner tant qu'il n'aura pas gain de cause, même s'il doit faire une scène pour cela. Si votre enfant prépare souvent des petits cadeaux qu'il a enveloppés avec amour et vous les offre avec des yeux brillants de joie, il est sans doute très sensible lui-même au langage des cadeaux. Il donne dans l'espoir de recevoir en retour. Si vous constatez que votre fils ou votre fille aide son petit frère ou sa petite sœur, vous pouvez sans risque de vous tromper en déduire qu'il ou elle est porté sur le langage des services rendus. Si l'enfant répète souvent que vous êtes beau, que vous êtes un gentil papa ou une merveilleuse maman, que vous avez bien réussi le gâteau ou la tonte du gazon, il est enclin à utiliser et à bien comprendre le langage des paroles valorisantes. Tout cela se passe dans son subconscient. L'enfant ne calcule pas. Si j'offre un cadeau, mes parents m'en offriront à leur tour. Si je le câline, je serai câlinée. Mais son comportement n'en est pas moins dicté par ses besoins affectifs. Une fillette a peut-être appris par expérience que si elle dit ou fait certaines choses, ses parents réagiront toujours de la même manière. Elle s'arrangera donc pour dire ou faire ce qui lui vaudra la satisfaction de ses besoins affectifs. Si leurs besoins émotionnels sont comblés, les enfants deviendront plus tard des adultes responsables. Dans le cas contraire, ils pourront vouloir transgresser les normes établies, se mettre en colère contre leurs parents qui n'ont pas su répondre à leurs besoins et rechercher l'affection dans des voies néfastes. Le docteur Ross Campbell, le psychiatre qui m'a le premier parlé du réservoir émotionnel, déclare que pendant toutes les années où il s'est occupé d'adolescents ayant eu des comportements sexuels à risque, il n'a jamais eu affaire à un jeune dont les parents avaient su combler les besoins d'amour. À son avis, la plupart des dérapages sexuels sont dus à un réservoir émotionnel vide. Il a souvent entendu ces jeunes dire « Mes parents ne m'aiment pas, ils ne m'ont jamais aimé, ils aiment mon frère, mais moi, non. » Les parents aiment-ils réellement l'adolescent? En général, oui. Où est le problème alors? Il est très probable que les parents n'aient jamais appris à communiquer leur amour dans un langage que l'enfant peut comprendre. Ils ont peut-être acheté un ballon ou un vélo pour lui montrer leur amour, sans se rendre compte qu'au fond de lui, leur enfant suppliait. Qui voudrait jouer au foot ou faire du vélo avec moi? La différence entre acheter un ballon et jouer avec l'enfant est celle qui existe entre un réservoir vide et un réservoir plein. Les parents peuvent sincèrement aimer leurs enfants, mais la sincérité ne suffit pas. Si nous voulons répondre à leurs besoins psychiques, nous devons apprendre à parler leur langue. Passons en revue les 5 langages affectifs fondamentaux dans le contexte de l'amour envers les enfants. Premier langage d'amour, les paroles valorisantes. En général, les parents abreuvent leurs jeunes enfants de propos appréciatifs. Avant même que l'enfant ne soit apte à communiquer verbalement, les parents s'extasient. « Oh, quel joli petit nez! Quels yeux superbes! Oh, ces bouclettes !» Lorsque le petit commence à se déplacer à 4 pattes, les parents s'émerveillent et applaudissent à chaque progrès réalisé. Quand le bambin se tient debout, une main rivée à la coudoir du canapé, nous nous éloignons de 2 pas et l'encourageons. « Allez, viens, avance, c'est bien, encore un pas, tu es un grand garçon maintenant !» Lorsque l'enfant, après avoir fait un pas, perd l'équilibre et s'affale par terre, nous nous gardons bien de lui dire « espèce de nigo !» Au contraire, nous redoublons nos encouragements. « C'était parfait, allez, encore un effort, tu y es presque !» Cela suffit pour qu'il se relève et recommence. Comment se fait-il qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, nos paroles, d'appréciatives qu'elles étaient, deviennent dépréciatives? Pour un enfant particulièrement sensible au langage des paroles appréciatives, nos propos durs, négatifs, critiques ou peu valorisants ouvrent la porte à la terreur dans son ego. Des centaines d'adultes trentenaires ont encore dans les oreilles l'écho de paroles blessantes prononcées quelques 20 ans plus tôt. « Tu es trop grosse, personne ne voudra de toi. Tu n'es pas un élève studieux. Tu seras bientôt mise à la porte de l'école. Je n'arrive pas à croire que tu sois si sot. Tu n'arriveras jamais à rien. » Ces adultes se débattent toute leur vie avec le manque d'estime de soi et le sentiment de ne pas être aimé pour avoir subi dans leur enfance la violence des paroles dépréciatives. Deuxième langage d'amour, les moments de qualité. Répondre aux besoins de moments de qualité de l'enfant, c'est lui accorder une attention soutenue. Pour le tout petit, c'est s'asseoir avec lui par terre et jouer à lui envoyer la balle. C'est lui parler de petites autos ou de poupées. C'est l'accompagner au bac à sable et construire des châteaux avec lui. Bref, il faut entrer dans son univers et pratiquer certaines activités en sa compagnie. Peut-être en tant qu'adulte, êtes-vous plongé dans le monde des ordinateurs, mais votre fils vit dans celui de l'enfance. Si vous voulez le conduire peu à peu dans la sphère des adultes, vous devez d'abord vous mettre à son niveau dans son contexte enfantin. Quand l'enfant grandit et découvre d'autres centres d'intérêt, vous devez vous y intéresser également pour pouvoir répondre à ses besoins affectifs. S'il est mordu de basketball, documentez-vous sur ce sport, jouez éventuellement avec lui, inscrivez-le dans une équipe. S'il se passionne pour le piano, prenez au moins le temps de l'écouter de temps en temps, intéressez-vous à ses progrès. L'enfant interprète votre attention sans partage comme la preuve des soins dont vous l'entourez, de l'importance que vous lui attachez, du plaisir que vous éprouvez à être avec lui. Nombre d'adultes qui regardent en arrière leur enfance ne se souviennent plus de ce que leurs parents ont dit, mais ils gardent généralement le souvenir de ce qu'ils ont fait. Un homme me dit, Je me rappelle que mon père n'a jamais manqué un seul match quand je jouais dans notre équipe de foot. Je savais qu'il s'intéressait à ce que je faisais. Pour cet adulte, les moments de qualité exprimaient le mieux l'amour de son père. Si votre enfant est particulièrement ouvert au langage d'amour des moments de qualité et que vous lui parlez ce langage, cela donnera sûrement lieu au cours de son adolescence à des moments inoubliables passés ensemble. Si vous ne lui accordez pas un temps précieux dans son enfance, entrez dans l'adolescence, il recherchera d'autres personnes qui sauront lui prêter l'attention que vous lui aurez refusée et il s'éloignera de vous au moment où vous voudrez précisément lui consacrer plus de temps. Troisième langage d'amour, les cadeaux. De nombreux parents et de grands-parents abusent du langage des cadeaux. En entrant dans un magasin de jouets, on se demande si pour les parents, ce n'est pas le seul langage de l'amour. Quand les parents ont l'argent nécessaire, ils sont enclins à faire beaucoup de cadeaux à leurs enfants. Certains pensent même que c'est le meilleur moyen de leur témoigner de l'amour. Ils s'efforcent de donner à leurs enfants ce que leurs propres parents n'ont pas pu ou pas voulu leur offrir. Ils leur achètent ce qu'ils auraient souhaité étant enfants. Mais à moins de correspondre au langage d'amour préféré de l'enfant, les cadeaux n'ont que peu d'impact sur son réservoir émotionnel. Ses parents sont bien intentionnés, mais ils ne répondent pas aux véritables besoins affectifs de l'enfant. Si l'enfant met rapidement de côté le cadeau que vous lui avez offert, s'il dit rarement merci, s'il ne prend pas soin de ce qu'il a reçu, s'il en fait peu de cas, vous pouvez être certain que le principal langage d'amour auquel il est sensible n'est pas celui des cadeaux. En revanche, s'il réagit par une vive reconnaissance, s'il prend soin de ce cadeau, s'il le place à un endroit visible dans sa chambre, s'il le maintient propre, s'il joue longtemps avec, il est alors probable que le langage des cadeaux soit celui qui lui exprime le mieux votre affection. Il n'est pas nécessaire d'avoir une bourse bien remplie pour faire des cadeaux à ses enfants. Quatrième langage d'amour, les services rendus. Quand leurs enfants sont petits, les parents ne cessent de leur rendre des services. Sans cela, l'enfant mourrait. Le baigner, le nourrir, l'habiller, tout cela requiert de ses parents beaucoup de travail pendant les premières années de sa vie. Puis suivront les repas à préparer, son linge à laver et à repasser. Plus tard, il faudra lui préparer ses goûters, le conduire à l'école, l'aider à faire ses devoirs scolaires. Si beaucoup d'enfants considèrent ces services comme allant de soi, certains y voient une expression très claire de l'amour de leurs parents. Si votre enfant manque rarement une occasion de vous remercier pour les services ordinaires que vous lui rendez, cela signifie qu'ils ont beaucoup de valeur à ses yeux. Vos gestes sont pour lui des expressions très explicites de votre amour. Lorsque vous l'aidez à faire ses devoirs, cela représente pour lui plus qu'une bonne note. Il se dit « mes parents m'aiment ». Quand vous l'aidez à réparer son vélo, vous faites davantage que simplement lui permettre de rouler à nouveau. Vous le laissez repartir avec son réservoir affectif plein. Si votre enfant vous propose systématiquement de vous aider dans vos occupations, dans son esprit, cela équivaut à vous témoigner son amour. Il a trouvé dans le langage des services rendus la meilleure façon de vous le faire sentir. Cinquième langage d'amour, le contact physique. Nous savons depuis longtemps que le toucher est un puissant communicateur d'amour pour l'enfant. Des études ont montré que des bébés qui sont souvent pris dans les bras se développeront émotionnellement mieux que ceux qui ne le sont pas. De façon naturelle, de nombreux parents et d'autres adultes prennent un nouveau-né dans les bras, le cajolent, l'embrassent, le serrent contre eux et lui parlent à son niveau. Longtemps avant qu'il soit en mesure de comprendre le mot « amour », l'enfant se sent aimé. Les bisous, les caresses, la promenade main dans la main sont autant de gestes qui lui communiquent votre amour. Un adolescent n'appréciera certainement pas que vous le serriez dans vos bras et que vous l'embrassiez comme un petit enfant, surtout en présence de tierces personnes, mais cela ne signifie nullement qu'il n'aime pas être touché. Si votre enfant aime vous surprendre par derrière, attraper vos bras, vous pousser légèrement, vous faire un croche-pied lorsque vous traversez la pièce ou simuler une lutte sur le tapis, il indique que le toucher revêt une grande importance pour lui et correspond sans doute à son premier langage affectif. Observez vos enfants. Regardez comment ils expriment leur amour à leur entourage. C'est un indice concernant le langage d'amour qu'ils affectionnent eux-mêmes. Obliger notre enfant à se promener en famille dans le but de lui offrir un moment de qualité n'est pas toujours la meilleure forme d'expression de notre amour pour lui. Apprenons à parler le langage le plus susceptible de faire comprendre à nos enfants notre amour pour eux. Pourquoi ne pas le leur dire ? Fin du chapitre. Juste avant que l'on se quitte, je vais vous partager le témoignage que Gary Chapman a partagé concernant un de ses lecteurs qui vivait depuis de nombreuses années une relation toxique avec sa mère. Cher Dr Chapman, je tiens à vous écrire pour vous dire ce que je dois à votre livre « Les langages de l'amour ». Je sais que vous l'avez écrit à l'intention des gens mariés, mais un ami m'en a donné un exemplaire. Je l'ai lu et il a eu un profond impact sur ma vie. Je me trouve au Japon où j'enseigne l'anglais comme langue étrangère. Si je suis là, c'est surtout parce que j'ai voulu m'éloigner de ma mère. Mes relations avec elle étaient tendues depuis plusieurs années. J'avais le sentiment de ne pas être aimée et qu'elle voulait exercer un contrôle sur ma vie. La lecture de votre livre m'a ouvert les yeux. J'ai compris que le langage d'amour auquel je suis le plus sensible est celui des paroles valorisantes, mais ma mère ne m'adressait que des paroles dures et ne faisait que me critiquer. J'ai aussi compris que ma mère était particulièrement sensible au langage d'amour des services rendus. De tout temps, elle s'est mise en quatre pour moi. Même quand j'ai emménagé dans mon appartement personnel, elle a tenu à venir pour passer l'aspirateur. Elle a tricoté un vêtement pour mon teckel et m'a confectionné des petits fours quand elle savait que je recevais des amis. Comme je ne me sentais pas aimée d'elle, j'interprétais tous ses gestes comme autant de preuves de ses manœuvres pour m'avoir sous sa coupe. Aujourd'hui, je sais que c'était sa façon de m'exprimer son amour. Elle utilisait son langage d'amour préféré et je suis sûre qu'elle était sincère. Je lui ai envoyé un exemplaire de votre livre. Elle l'a lu et nous avons échangé nos impressions et nos remarques par email. Je me suis excusée auprès d'elle d'avoir mal interprété tous les services qu'elle m'a rendus au fil des années. Après que je lui eus expliqué combien ses paroles dures et ses reproches incessants m'avaient fait du mal, elle s'excusa à son tour. Aujourd'hui, ces messages électroniques sont remplis de propos valorisants. De mon côté, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour elle quand je rentrerai. Je lui ai déjà dit que je ferais repeindre sa chambre à coucher. Elle ne peut le faire elle-même et n'a pas les moyens de payer les services d'un peintre. Je sais que nos rapports seront désormais différents. Ici, j'ai appris à quelques étudiants à mieux parler l'anglais, mais ma plus grande découverte aura été celle des langages d'amour. Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a permis de réaliser que votre langage d'amour fait partie intégrante de votre identité et par conséquent contribue grandement à votre construction, votre connaissance de soi, votre amour de soi et épanouissement personnel, d'où l'importance de le découvrir et de le pratiquer régulièrement. Mercredi prochain, dans le prochain épisode, partie 3, ce n'était pas prévu, mais bon, je souhaite être relativement complète sur la thématique des langages de l'amour. Nous évoquerons le langage de l'amour dans le couple. Apprendre à se connaître en tant qu'individu, c'est super, mais se connaître au sein du couple est tout aussi important pour une vie pleinement épanouissante, pour se découvrir davantage sous une autre forme et pour grandir toujours plus dans son amour de soi. Si vous avez apprécié l'épisode et si vous pensez qu'il peut encourager quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours super encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao! It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding the heart.